Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Je voyage en Afghanistan depuis une quinzaine d'années. Généralement, j'y vais une ou deux fois par an. Mon fils trouve que c'est stylé.
C'est stylé.
Mais aussi un peu chelou. Moi, je ne cherche pas trop à savoir pourquoi je me suis attachée à ce pays, mais ce qui est sûr, c'est que dès que j'ai une occasion, j'y vais. Sauf que cette fois, c'est différent. Je suis invitée par l'ambassade de France. Et qui dit invitation officielle, dit sécurité. Pour la première fois, on vient me chercher à l'aéroport en voiture blindée.
Vos bagages vont partir avec l'autre voiture.
C'est stylé,
puis,
mais c'est aussi relou. On me demande de respecter les mêmes consignes de sécurité que si j'étais un diplomate ou même un ambassadeur.
Ils vont à l'ambassade aussi ?
Oui.
Et quand je rechigne à mettre mon gilet pare-balles, l'agent du raid me répond « Eh ben c'est pas la Suisse, hein !»
Et on vous en a pris un léger, un beau. Regardez ce qu'il a comme gilet.
Moi, ça m'inquiète plutôt qu'autre chose.
C'est vrai ?
Ah bah
mais
oui.
Tous vos transports seront comme ça.
Oh non. Mais ça pèse quoi, 30 kilos ce truc ?
Ah là, on est bien. Avec 30 kilos de plomb.
Vous voyez, c'est pas si terrible.
Les diplomates américains, eux, ne font même pas ces 15 minutes de trajet entre l'aéroport et leur ambassade en voiture, même blindée.
C'est pour ça qu'on voit défiler tant d'hélicoptères, en fait. C'est juste des trajets ville-aéroport.
Ouais, c'est des trajets de transport, hein, transport en commun.
Ça leur coûte 2 000 $ d'aller-retour. Ça fait 1 an et demi de salaire d'un instituteur afghan pour chaque trajet. L'occasion à laquelle je dois cette aimable réception, c'est le 15e anniversaire de la destruction des Bouddhas de la vallée de Bamiyan. Pendant toute l'année 2016, l'ambassade de France a invité des écrivains, des artistes, des intellectuels français ou francophones à se rendre à Bamiyan pour y, je cite, « écrire un texte ou concevoir une œuvre inspirée par leur confrontation avec les halos, aujourd'hui sans présence physique, des Bouddhas ». C'est ce qui est dit dans le texte de présentation du programme, écrit et conçu à l'époque par l'ambassadeur M. Marie.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Moi, j'ai promis de faire un journal sonore, mais il faut que je trouve quelque chose qui ressemble au moins un peu à ce que vous avez l'habitude d'entendre dans Les Pieds sur Terre, qui ne soit pas de l'histoire ni de l'archéologie et qui raconte la vie des Afghans. Ce que voient les Bouddhas, c'est le premier épisode, Sonia Kronlund, Angélique Thibault. Jusqu'à 14h sur France Culture. Je vais donc me confronter personnellement au halo, c'est un programme. Pour commencer, je peux vous faire entendre le bruit que ça fait quand ils les ont détruits, les Bouddhas. Nous sommes en 2001. Les talibans ont conquis le pays depuis 4 ans et demi. Pour comprendre ce qui a motivé la décision des talibans, je retrouve Abdul Salam Zaïf grâce à un ancien contact. Il est un des fondateurs du mouvement taliban. Il a passé 4 ans à Guantanamo et il appartient aujourd'hui au courant dit modéré. En 2001, il est ambassadeur de l'Émirat islamique d'Afghanistan au Pakistan, qui est un des seuls pays qui reconnaît cet éphémère état des talibans.
La décision de la destruction des Bouddhas a été prise principalement par le ministre de la Promotion de la Vertu et la Répression du Vice. À la suite de la réunion d'une haute assemblée de religieux.
Le décret est prononcé le 26 février 2001 par le Mollah Omar sur recommandation de ce collège d'Ouléma. La condamnation à mort des Bouddhas est fondée sur des arguments religieux. Le décret ordonne, je cite, « toutes les statues doivent être détruites afin que personne ne puisse les honorer ou les vénérer à l'avenir ». Zaïf abonde dans ce sens.
C'était une décision islamique. De ce point de vue, rien ne s'opposait à leur destruction. La charia allait dans ce sens.
L'argument religieux est pourtant mince. Il n'y a plus de bouddhistes en Afghanistan depuis une dizaine de siècles, donc plus personne pour vénérer des idoles. En 2001, la décision islamique semble plutôt politique. Elle propulse soudainement l'Afghanistan sur le devant de la scène internationale. Jamais un événement dans une province reculée de ce pays n'a suscité une telle indignation mondiale.
J'ai été approché par toutes les chancelleries d'Islamabad. Une délégation est venue du Japon, conduite par le ministre de la Culture japonais. L'UNESCO a tenté une médiation. Tous les ambassadeurs européens m'ont contacté. Même les autorités pakistanaises ont essayé de faire pression.
Je me demande pourquoi, tandis que des centaines de milliers d'Afghans sont morts pendant 40 ans de guerre, dans l'indifférence à peu près générale, on s'émeut tant de la destruction de ces statues. Pourquoi, au fond, les talibans ont-ils visé si juste? Que représentent vraiment ces statues? Pour répondre à toutes ces questions, je dois me rendre sur place, à Bamiyan. Bamiyan, c'est à 200 km environ de Kaboul. Une région qu'on appelle le Hazarajat, peuplée essentiellement par des Hazaras, qui ont la particularité d'être chiites et d'avoir des traits un peu asiatiques. J'y suis déjà allée plusieurs fois par la route. Aujourd'hui, elle est infestée de bandits et de talibans, qui sont aussi des bandits. Même pas envisageable pour un étranger. La première fois que je suis allée à Bamiyan, la haine ethnique des talibans pachtounes contre les habitants Hazaras était l'explication principale qu'on trouvait sur place à cet acharnement contre les statues. C'était en 2004. Lui, c'est Bismillah, il est Hazara, il a grandi à Kaboul et ensuite il est retourné à Bamiyan.
Nous, on est vraiment fâchés, on a la haine qu'on a perdu ces bouddhas anciens, ces choses anciennes qu'on a gardées depuis si longtemps. On a tellement la haine qu'on a l'impression qu'on a perdu trois quarts de notre vie en perdant ça.
Et là, celui-là, c'est lequel? Enfin, le trou qu'on voit, qu'est-ce que c'était?
C'est le grand Bouddha.
Il s'appelle Salsal.
Salsal, il s'appelle. Dans tout Bamiyan, il y avait un nuage de fumée, ils avaient tout brûlé, ils brûlaient toutes les maisons.
Vous avez vu ça, vous?
Nous, on était sur la montagne et on voyait, à partir de la montagne, on voyait qu'ils étaient en train de brûler Bamiyan. La seule raison, c'était tuer les Hazaras.
On peut s'approcher un peu? Alors, attends. Là, il faut traverser un petit ruisseau.
Alors, ce qu'il faut faire...
Attends une seconde. Quoi?
Regarde. Tu mets le pied là.
Sur une pierre? Attends-moi.
Et après, tu te sers de là, mais tu sautes vite. Parce que sinon, ça va glisser.
En 2004, on ne pouvait pas vraiment aller en haut des bouddhas. L'endroit n'était pas entièrement déminé. Maintenant, on peut. Il faut s'imaginer deux grands trous complètement vides dans la montagne, hauts d'une cinquantaine de mètres, avec des parois bien lisses et un espace plus étroit pour la tête, comme deux coquilles vides.
Soit on monte par les échafaudages, mais c'est un peu dangereux. Je suppose que tu choisiras pas cette option. Soit on passe de l'autre côté pour monter jusqu'à la tête.
Ok, on monte pas par les échafaudages, monsieur. On va, qui sont bien branlants. Aujourd'hui, il y a aussi un responsable des monuments qui s'appelle Ahmed Jalia et qui sert un peu de guide. Et Eva qui traduit.
نه این به نام زاغ میگن اینجا شاهین نیست شاهین هم هست اینجا مگر این پرنده که فعلا میبینیم
زاغ است سی زوازولا سی دی کاربو
نزدیک بازار است بعضی چیزایی که مردم مثلا در زبالادانی میندازه بازی نام
et comme on est proche du bazar ils vont parfois se servir au niveau des déchets
et donc en fait on peut monter tout en haut c'est ça
bah,
oui c'est possible de monter en haut
d'accord mais c'est un peu sportif non énergie d'Ashta Boshem. On a besoin d'énergie.
We follow you.
Ça fait combien de mètres, monsieur? On va monter combien de mètres?
Environ 80 mètres.
تون برشان بگوی که امروز آب هوا از تالیتون خیلی خوب است نه شمال است نه باد است نه هوا
Vous avez de la chance, il fait très beau aujourd'hui, ni pluie ni nuages. Vous êtes chanceux. En fait, il y a des gardes là-haut pour contrôler les tickets de chaque personne qui vient pour visiter les Bouddhas. Pour faire en sorte qu'il n'y ait personne qui vienne pour les abîmer. Là, on va vers une des grottes où, à l'époque des talibans et de la guerre civile, les gens se rendaient et frappaient leurs chaussures dessus pour que la trace de leurs semelles reste. C'est parce qu'ils étaient contre l'idée des statues.
Mais moi, je veux pas aller jusqu'en haut, monsieur. Hein. Je suis désolée, mais j'ai eu...
En
fait, c'est constitué de plusieurs étages. On peut aller au premier, au deuxième, au troisième, et ensuite c'est la tête du Bouddha.
L'absence de tête du Bouddha.
On est au premier étage actuellement.
که در این طبقه تعداد زیادی از مقاره ها دیده میشن که این مقاره ها خاص به خاطر
راهبین کسایی
که درس میدادن آموزش میدادن دینی بودایی را به
دیگران c'était comme des salles de classe où on venait enseigner.
Ce que j'ai retenu, sans entrer dans les détails, c'est que les statues ont été édifiées entre 300 et 700. À partir du IIe siècle, Bamiyan devient un immense centre religieux bouddhiste où vivent et étudient de nombreux moines venus de Chine. Ici, c'est une salle d'études creusée dans la roche, comme une grotte sur le côté des Bouddhas.
C'est ici que les gens sont venus, ils ont retiré leurs chaussures, ils les lançaient au plafond, on voit les traces... faites de poussière. C'est quand les talibans étaient au pouvoir que ça a eu lieu. Avant ça, personne n'avait jamais fait ça. C'est vraiment les talibans quand ils sont arrivés.
Ou c'est des chaussures de talibans, en fait.
Ce sont des traces de chaussures de talibans. Les gens qui ont fait ça ont voulu laisser la trace de leurs chaussures parce qu'ils n'en respectaient pas le bouddhisme, donc ils ont voulu humilier la religion.
L'histoire ne dit pas quel genre de chaussures exactement portaient les talibans au début des années 2000. Mais Guillaume Josseau, le jeune diplomate qui me chaperonne, connaît bien la Chine et son histoire, donc le bouddhisme. Je lui demande pourquoi tant de mépris.
En fait, tout le long de la route de la soie, tu vas retrouver des sites assez similaires. Tu trouves du côté de Kaboul, du côté de Jalalabad, tu vas trouver des sites absolument magnifiques. Et on peut imaginer qu'il reste encore des choses à découvrir. Il y a ce fameux Bouddha allongé... Dont il existe des traces dans les écrits et que personne n'a jamais trouvé et qui serait l'une des merveilles du monde.
Ici, les gens étaient bouddhistes.
Oui. Ben là, tu es sur le bouddhisme chinois. Il est passé par des routes. Il s'est diffusé à la Chine via l'Afghanistan, même si c'est un peu un raccourci.
Et ça, c'est des grottes où habitaient les moines, c'est ça ?
Pas forcément, non. Tu avais des peintures, des sculptures. Il faut s'imaginer que tout ça, c'était recouvert de peintures. Sur 20-30 km, t'as des grottes. Et ici, dans la vallée de Bamiyan, tu vas faire 30 km de voiture, tu vas retrouver d'autres vallées dans lesquelles tu vas retrouver des caves à nouveau. Et puis tu vas faire 500 km, 1000 km, et tu vas retrouver encore des lieux similaires. Et tout ça faisait partie de réseaux commerciaux, religieux. C'est quelque chose d'assez complexe. Tu prends deux secondes ici et que tu regardes un peu au-dessus de toi, là. Il y a une grotte qui s'est à moitié effondrée et tu peux voir tout le. Enfin, la moitié du dôme. Tu devines encore la construction de la grotte. Tu vois un peu le niveau de complexité que ça pouvait avoir. Et puis il faut imaginer que tout ça était recouvert de peinture. Des Bouddhas. Des espèces de femmes des Aspara. Volante, d'espèce de déesse avec un corps en général très, ça finit en espèce de volute. Bon, on va voir, il y a encore quelques endroits où tu devines des restes de peinture, alors avec les visages tout effacés, mais ça c'est pas les talibans, hein. Les talibans sont pas responsables de toutes les destructions.
Il y a beaucoup de pillages en fait.
Non, il y a eu des destructions avant, la vague talibane, la vague iconoclaste c'était pas la première, loin de là. Ça n'a pas arrêté, hein. Donc les talibans ont juste fini le travail. Hein. C'est...
Et toujours pour les mêmes raisons, c'est-à-dire pour éliminer le bouddhisme d'Afghanistan.
Oula.
Non, ça va. T'inquiète pas.
Il y a un passage un peu difficile, voilà.
Ça va.
Les restes de nos amis soviétiques devant toi. Ça, c'est clairement de l'équipement militaire qui te permet de contrôler la vallée. C'est des équipements qui sont tellement lourds qu'en fait les Afghans les ont laissés là et.
Ah ça y est, on est déjà en haut ?
On va arriver dans la tête du Bouddha. Bon, on doit être à 50 mètres de hauteur et on a toute la vieille ville de Bamiyan sous les pieds. Donc avec le vieux bazar soviétique détruit. C'est la mosquée du vendredi, the Friday Mosque ?
Yeah.
Petit bout de Bouddha qui nous bloque.
Tu veux passer le bout de Bouddha ?
Ouais. C'est bon ?
Il voilà, faut enjamber. Merci. Une grosse pierre. Attends, je vais y arriver.
Ouais, c'est bon.
Okay. Ouais, non, si je veux bien que tu me donnes la main. Merci. Qu'est-ce que tu dis ?
Regarde pas en bas ?
Oui.
Pourquoi ?
Voilà pourquoi.
Non mais après c'est bon. Donc là en fait on est dans le... On est sur les épaules du géant. Donc là je sais que t'as le vertige mais la vue est magnifique. Là on est sur la tête du Bouddha. On est derrière la tête en fait. Donc voilà. Là t'as la plus belle vue. T'es dans le crâne de Bouddha. Voilà.
Quand ils se mettent en tête d'anéantir toute cette mémoire du bouddhisme en Afghanistan et tout un pan de la pensée et de l'art pré-islamique, les étudiants en religion ne savent pas bien comment s'y prendre. Alors ils enrôlent de force une quarantaine de paysans du coin dans leur gros 4x4 noir et les tiennent prisonniers jusqu'à la destruction finale. L'un d'entre eux est célèbre dans toute la vallée. On l'appelle Bouchakan.
Il habite où, Féroz ?
Le briseur d'idoles ou le destructeur des Bouddhas.
Vers le poteau électrique ? Ok, merci.
C'est pourtant un vieux monsieur très fripé et menu, avec un turban sur la tête et des yeux bleu turquoise.
On a des terres un petit peu. Et cette âne que vous voyez. On a quelques moutons, c'est tout. On ne vit pas très bien. Vous êtes les bienvenus. Merci d'être là.
Okay.
On
n'était pas en prison, mais on était encerclés par les talibans. Ils nous menaçaient. Si on tentait quelque chose, ils brûleraient nos maisons. Ils tueraient nos familles. Au début, ils nous ont dit qu'il fallait qu'on les détruise au marteau-piqueur. Ensuite, ils nous ont dit que ça ne fonctionnerait pas comme ça. C'était vraiment de la pierre très dure. Il a fallu creuser d'abord. Les talibans ont été chercher des explosifs. Ils en ont placé autour des bouddhas. C'était de la dynamite, des sortes de pétards. Et ensuite, ils nous ont dit de les faire exploser. Et tout ça a duré 15 jours, les explosions.
Donc tous les matins, vous alliez détruire les bouddhas comme on va au travail. En fait, ce que je commence à comprendre, c'est que comme Bhutchakan, le briseur d'idoles, la vallée reste toujours aussi fameuse pour ses bouddhas. On en parle comme s'ils étaient là. On vient les voir, on les escalade, on monte sur leur tête, on interroge leur destruction qui devient un sujet anthropologique, journalistique, historique, touristique, politique et vient se substituer à leur existence matérielle. Les halos des bouddhas sont devenus plus réels que les bouddhas eux-mêmes. On continue à venir les voir et à se raconter des histoires, y compris sur leur destruction. D'ailleurs, dans le bazar, il y a un autre destructeur de bouddhas. C'est jeudi soir aujourd'hui, alors c'est la night fever, si tu veux. C'est la fièvre des achats. Voilà. Alors, il y a un monsieur qui répare une bicyclette. Bonjour. Bonjour, monsieur. Salam.
Je m'appelle Saïd Melvos. J'habite à Bamiyan, dans le centre-ville. Je vis ici, dans le centre. J'ai été témoin de la scène de la destruction des bouddhas. Et je peux tout vous raconter.
Ils
nous ont choisi nous parce qu'on était un peu leurs esclaves. Que nos vies ne valaient rien à leurs yeux puisqu'on était chiites Hazara. Et si une décharge explosait, ça n'importait pas. Il fallait que ça tombe sur nous et pas sur eux. Tout ce qu'ils voulaient, les talibans, c'était détruire l'héritage culturel qu'il y avait à Bamiyan. Et comme prétexte, ils utilisaient le fait que les Hazaras avaient pour Dieu ces Bouddhas et qu'il fallait absolument les détruire à cause de ça. Les gens sont morts pendant la destruction des bouddhas. Les talibans allaient aussi tous les jours dans les villages pour tuer des gens. Tous les jours. C'était uniquement de la tuerie.
Et aujourd'hui, vous n'avez plus peur des talibans ?
J'ai tellement peur des talibans qu'aujourd'hui je ne peux pas me rendre à Mazar ou à Kaboul. Je ne peux aller nulle part. Je reste ici. Je ne bouge pas. Car j'ai très peur de ce qu'ils pourraient me faire. Ils ont presque déjà repris tout le pays. Et là, ils commencent à avoir plus de pouvoir. Ils ont récupéré Dand, Pole Khomri. Là-bas, il y a Maïdan. Il y a encore quelques jours, ils étaient très présents. C'est vraiment à la frontière de Bamiyan. Aujourd'hui, ils sont partout. Et ils ne sont peut-être pas spécifiquement dans le centre de Bamiyan, mais ils sont partout, aux alentours. Aux frontières de Bamiyan, ça fait à peu près un mois que la situation s'est dégradée. On dit qu'il y a un gouvernement, mais quand on va dans les provinces, le gouvernement n'a pas de pouvoir. Il n'y a que dans le centre de Bamiyan que les talibans ne peuvent pas grand-chose. Mais c'est précaire.
Allez,
La situation s'est dégradée. C'est plus le Bamiyan qu'on a connu. Aujourd'hui, on est menacé à Bamiyan.
Avec Saïd, j'ai l'impression d'avoir un peu avancé. Mais la situation, elle, recule plus tôt. Alors, je continue à poser des questions à Hamid, chargé des monuments. C'est là que je découvre enfin ce que je cherchais. Une légende qu'on raconte à propos des deux Bouddhas, le grand qu'on appelle Salsol et le petit Shamama.
Les gens disent qu'il y avait deux amoureux.
Une bonne histoire.
Les
gens disent que Shamama était la femme et Salsol était l'homme et ils disent que c'était deux amoureux. Ils n'avaient pas le droit d'être ensemble, alors ils se sont enfuis. Finalement, ils ont été transformés en statues. Mais ce n'est qu'une légende, il ne faut pas y croire.
Moi, justement, j'ai décidé d'y croire. J'aime bien l'idée que les talibans ont voulu détruire deux amoureux plutôt que deux idoles. Je vais chercher dans ce sens-là. Qui sont ces amoureux? Est-ce qu'il y a à Bamiyan des histoires comme ça? Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, ce que voient les Bouddhas, premier épisode, La Destruction, un reportage de Sonia Kronlund, réalisé par Angélique Thibault, une émission réalisée avec le concours actif et amical de l'ambassade de France à Kaboul, Jean-Michel Marlot, François Richier, Pascal Hans, Laurence Levasseur, Steve Zepi, Valérie Blachier, Guillaume Josseau, Christophe Fontaine, traduction Ivan Nasseri, merci à Sharif Kora, Mamadi Meraïn, à Amit Jalia, à Najiba Nouri et à Melville Le Tellier. Mémoire de Bamiyan, c'est une journée de réflexion sur l'empreinte laissée dans les esprits par la destruction des Bouddhas et sur sa place dans notre perception de l'histoire contemporaine. C'est samedi 11 mars, ce samedi, au Palais de Tokyo à Paris à partir de 14h. En partenariat avec l'Institut français. Détail du programme à la page des Pieds sur Terre sur le site de France Culture qui est aussi partenaire. Je vous préviens, il y a un débat animé par Adèle Van Rett en personne. Vous pourrez voir Jean-Pierre Perrin en vrai, de nombreux ambassadeurs, il y a des projections, des installations. Alors dépêchez-vous de réserver, ce sera passionnant. Il y a même un web doc, je ne vous dis que ça.
نمیمونه خاره تنها تو به